Septième partie, Rivonia. Après avoir passé la frontière, j'ai respiré un grand coup. L'air du pays natal semble toujours plus doux quand on est resté absent un certain temps. Dans la claire nuit d'hiver, les étoiles elles-mêmes me paraissaient plus accueillantes que sur le reste du continent. Je quittais un monde où, pour la première fois, j'avais connu la liberté, et je revenais là où je vivais comme un fugitif. Mais j'étais quand même profondément soulagé de me retrouver dans le pays de ma naissance et de mon destin. Nous avons voyagé toute la nuit, traversant la frontière vers minuit et arrivant à la ferme de Lily's Leaf à l'aube. Je portais encore ma tenue kaki d'entraînement. À la ferme, je n'ai pas eu le temps de me reposer ni de réfléchir, car le lendemain soir, nous avions une réunion secrète pour que je parle de mon voyage au comité de travail. Walter Sisulu, Moses Kotane, Govan, Dan Tlume, J.B. Marx et Duma Nokwe sont tous arrivés à la ferme. Une réunion exceptionnelle. J'ai fait un compte-rendu général de mon voyage en indiquant l'argent que j'avais reçu ainsi que les offres d'entraînement. En même temps, j'ai fait part des réserves qu'on avait faites sur la collaboration de l'ANC avec les Blancs, les Indiens et en particulier les communistes. J'avais encore dans les oreilles ce que m'avaient dit les responsables zambiens lors de notre dernière rencontre. Ils savaient que l'ANC était plus fort et plus populaire que le PAC, mais ils comprenaient le nationalisme africain intransigeant du PAC et étaient stupéfiés par le refus du racialisme de l'ANC et par ses liens avec les communistes. Je les ai informés qu'Oliver Tambo et moi pensions que l'ANC devait apparaître plus indépendant, afin de rassurer nos alliés du continent, car seuls ils assureraient le financement et l'entraînement d'Umkhonto Wesizwe. J'ai proposé une refonte de l'Alliance des Congrès de façon que l'ANC apparaisse vraiment comme le leader, en particulier sur les questions concernant directement les Africains. C'était une proposition grave, et il fallait consulter toute la direction. Le comité de travail m'a demandé de descendre à Durban pour informer le chef. Tous étaient d'accord, sauf Govan Mbeki, qui à l'époque ne vivait pas à la ferme mais assistait à la réunion comme membre du haut commandement de MK. Il me demanda d'envoyer quelqu'un d'autre. C'était simplement trop risqué, a-t-il dit, et l'organisation ne devait pas m'exposer, en particulier au moment où je venais de rentrer et où je m'apprêtais à développer MK. Personne, même pas moi, n'a tenu compte de ce conseil de prudence. Je suis parti le lendemain soir en compagnie de Cécile, de nouveau déguisée en chauffeur. J'ai expliqué longuement la situation au chef Lutuli, qui m'a écouté sans rien dire. Quand j'ai eu fini, il m'a dit qu'il n'aimait pas l'idée que des hommes politiques étrangers dictent la politique de l'ANC. Il m'a expliqué qu'il avait développé la politique non raciale de l'ANC pour de bonnes raisons et qu'il ne pensait pas que nous devions en changer parce qu'elle ne convenait pas à quelques responsables étrangers. J'ai expliqué au chef que ces hommes politiques étrangers ne nous dictaient pas notre conduite, mais disaient simplement qu'ils ne la comprenaient pas. Mon plan consistait simplement à effectuer des modifications de pure forme afin de rendre l'ANC plus compréhensible et plus attractif à nos alliés. Je voyais cela comme une manœuvre défensive, car si les États africains décidaient de soutenir le PAC, cette organisation petite et faible pouvait brusquement devenir importante et forte. Le chef ne prenait pas de décision sur le moment. J'ai compris qu'il voulait réfléchir à ce que j'avais dit et en parler à certains de ses amis. Je l'ai quitté et il m'a conseillé d'être prudent. Ce soir-là, j'ai eu d'autres réunions clandestines en ville et dans le township, dont la dernière avec le commandement régional de MK à Durban. J'ai bien dormi et j'ai retrouvé Cécile le dimanche après-midi, 5 août, pour le long trajet jusqu'à Johannesburg dans son Austin. Je portais mon cache-poussière blanc et je me suis assis à côté de Cécile qui conduisait. Nous prenions souvent le volant chacun à notre tour. La journée était claire et fraîche et je regardais la beauté du paysage du Natal. La région reste verte, même en hiver. Je rentrerai à Johannesburg et je passerai quelque temps avec Winnie et les enfants. J'avais souvent souhaité que Winnie puisse découvrir avec moi les merveilles de l'Afrique, mais je ne pourrais que lui raconter ce que j'avais vu et fait. Quand nous avons quitté la zone industrielle de Durban, nous avons traversé les collines avec des panoramas magnifiques sur les vallées environnantes et les eaux de l'océan Indien d'un bleu profond. Durban est le principal port de la principale région industrielle du pays et la route nationale qui conduit à Johannesburg suit pendant assez longtemps la ligne de chemin de fer. J'ai cessé de contempler le paysage pour réfléchir au fait que la voie ferrée très proche de la route était un endroit commode de sabotage. Je l'ai noté dans le petit carnet que je portais toujours sur moi. Nous avons traversé Howick, à 30 km au nord de Pietermaritzburg, plongé dans une discussion sur des plans de sabotage. À Sedara, une petite ville située juste après Howick, j'ai remarqué une Ford V8 remplie de blancs qui nous doublait à droite. Instinctivement, je me suis retourné et j'ai vu deux autres voitures avec des blancs derrière nous. Soudain, la voiture devant nous nous a fait signe de nous arrêter. J'ai su, à cet instant, que ma vie de fugitif était terminée. Mes 17 mois de liberté allaient prendre fin. Quand notre voiture s'est arrêtée, un homme grand et mince, avec un visage sévère, est venu directement à la portière du passager. Il n'était pas rasé et semblait n'avoir pas dormi depuis quelque temps. Immédiatement, j'ai pensé qu'il nous attendait depuis plusieurs jours. D'une voix calme, il s'est présenté comme étant le sergent Forster de la police de Pietermaritzburg et il m'a montré un mandat d'arrêt. Il m'a demandé mon nom. Je lui ai dit que je m'appelais David Motsamai. Cela a semblé l'irriter. Et il a dit « Ah, vous vous appelez Nelson Mandela et vous Cecil Williams et vous êtes en état d'arrestation. » Au commissariat, Cecil et moi avons été mis dans des cellules séparées. Désormais, j'avais tout le temps de réfléchir à ma situation. J'avais toujours su que je pouvais me faire arrêter, mais les combattants de la liberté eux-mêmes nient ce genre de possibilité, et cette nuit-là, dans ma cellule, je me suis rendu compte que je n'étais pas préparé à la réalité de l'arrestation et de l'emprisonnement. J'étais bouleversé et inquiet. Quelqu'un avait renseigné la police sur mes allées et venues. Il savait que je m'étais rendu à Durban et que je retournerais à Johannesburg. Ils avaient dû supposer que j'irais voir le chef Lutuli immédiatement après mon retour et ils ne s'étaient pas trompés. Mais je soupçonnais aussi qu'on l'avait informé de ma présence à Durban. Des informateurs avaient infiltré le mouvement et même ceux qui avaient les meilleures intentions n'étaient pas aussi muets qu'il l'aurait fallu. Moi aussi, j'avais été négligent. Trop de gens avaient su que je me trouvais à Durban. Il y avait même eu une petite fête la veille de mon départ, et je me suis reproché d'avoir baissé ma garde. J'envisageais toutes les hypothèses. Était-ce un informateur à Durban? Quelqu'un à Johannesburg? Quelqu'un du mouvement, ou même un ami ou un membre de la famille? Mais ce genre de spéculation sur ce qu'on ignore est vain. Et sous l'effet de la fatigue physique et morale, je me suis endormi profondément. Au moins cette nuit-là, celle du 5 août 1962, je ne me suis pas inquiété de savoir si la police allait me trouver. C'était déjà fait. Le lendemain, j'ai comparu devant un juge à Johannesburg pour un renvoi formel. Quand on m'a demandé le nom de mon avocat, j'ai répondu que j'assurerais ma défense moi-même, avec Joe Slovo comme avocat conseil. En assurant ma propre défense, je renforcerai l'aspect symbolique de mon rôle. J'utiliserai mon procès comme une vitrine pour montrer l'opposition morale de l'ANC au racisme. Je tenterai moins de me défendre que de mettre l'État en accusation. Ce jour-là, je n'ai répondu qu'aux questions concernant mon nom et le choix de mon avocat. J'ai écouté silencieusement l'acte d'accusation. J'avais incité les ouvriers africains à faire grève et j'avais quitté le pays sans document de voyage. Dans l'Afrique du Sud de l'apartheid, la sanction pour de tels crimes pouvait aller jusqu'à 10 ans de prison. Pourtant, j'ai été soulagé en entendant les charges. Manifestement, l'État n'avait pas assez de preuves pour établir un lien entre moi et Umkonto Wasisue. Sinon, j'aurais été accusé de crimes beaucoup plus graves, de trahison et de sabotage. Ce n'est qu'en quittant le tribunal que j'ai vu Winnie dans la galerie du public. Elle avait l'air désespérée et sombre. Elle devait sans doute penser aux mois et aux années difficiles qui l'attendaient, à sa vie solitaire, en élevant deux jeunes enfants dans une ville souvent dure et hostile. Ce sont deux choses différentes que d'imaginer des difficultés qui vous attendent et d'y être confronté. En descendant l'escalier vers les sous-sols, je n'ai pu lui faire qu'un grand sourire, comme pour lui dire que je n'étais pas inquiet et qu'elle ne devait pas l'être non plus. Je ne pense pas que ça ait pu beaucoup l'aider. On m'a conduit au fort de Johannesburg. Quand je suis sorti du tribunal pour monter dans le fourgon cellulaire, une foule de plusieurs centaines de personnes m'a acclamé, en hurlant « Amandla », suivi de « Ngawetu », un slogan populaire de l'ANC qui signifie « le pouvoir » et « nous appartient ». Les gens ont crié, chanté, cogné du poing sur le fourgon tandis qu'ils se frayaient un chemin dans la foule. Mon arrestation avait fait les gros titres de tous les journaux. La police met fin à 2 ans de cavale. Nelson Mandela arrêté. Le soi-disant mouron noir n'était plus en liberté. Je n'ai passé que quelques jours à l'hôpital du Fort avant d'être transféré à Pretoria. En me transférant à Pretoria, les autorités voulaient m'éloigner de chez moi pour me placer dans un endroit où moins de gens viendraient me voir. Malgré la distance, Winnie venait régulièrement et m'apportait du linge et une nourriture délicieuse. C'était une façon de me montrer son soutien, et à chaque fois que je mettais une chemise propre, je ressentais son amour et son dévouement. Je savais à quel point c'était difficile de venir à Pretoria, en milieu de journée et de semaine, avec 2 petits-enfants à la maison. La première audition fut fixée. Mon procès commença le lundi 15 octobre 1962 dans l'ancienne synagogue. Je m'y sentais comme chez moi après les 4 années du procès de trahison. Ce lundi matin, je suis entré dans le tribunal vêtu d'un carrosse traditionnel Kossa en peau de léopard au lieu d'un costume et d'une cravate. La foule de mes partisans se dressa comme un seul homme en levant le poing et en criant « Amandla, Ngawetu ». Le carrosse électrisa le public, dont beaucoup étaient des amis et des parents, et certains avaient fait la route depuis le Transkei. Winnie portait elle aussi une coiffure de perles et une longue jupe Kossa. J'avais choisi de revêtir un costume traditionnel pour souligner le symbolisme de l'Africain noir dans un tribunal d'hommes blancs. Je portais littéralement sur mon dos l'histoire, la culture et l'héritage de mon peuple. Ce jour-là, je me suis senti comme l'incarnation du nationalisme africain, l'héritier du passé difficile mais noble de l'Afrique et de son avenir incertain. Le carrosse était aussi un signe de mépris envers les subtilités de la justice des Blancs. Je savais parfaitement que les autorités se sentiraient menacées par mon carrosse comme la plupart des Blancs se sentent menacés par la véritable culture de l'Afrique. On me donna l'autorisation de m'adresser à la cour avant qu'on m'ait invité à plaider. « J'espère être capable de montrer, expliquai-je, que ce procès est celui des aspirations du peuple africain. Et à cause de cela, j'ai pensé qu'il valait mieux que j'assure ma défense moi-même. Je voulais qu'il soit clair pour la cour, pour le public et pour la presse que j'avais l'intention de faire le procès de l'État. » Puis, je demandais la récusation du président au motif que je ne me considérais pas moralement contraint d'obéir à des lois faites par un parlement dans lequel je n'avais aucune représentation. Et parce qu'il n'était pas possible non plus de bénéficier d'un procès honnête de la part d'un juge blanc. Pourquoi est-ce que dans ce tribunal je suis devant un magistrat blanc, confronté à un procureur blanc et escorté dans le box des accusés par des gardes blancs? Quelqu'un peut-il honnêtement et sérieusement dire que dans ce type d'atmosphère, les plateaux de la balance de la justice sont correctement équilibrés. Comment se fait-il que dans toute l'histoire de ce pays, aucun Africain n'ait jamais eu l'honneur d'être jugé par les siens, par sa chair et son sang? Je vais vous dire pourquoi, Monsieur le Président. Le véritable but de cette barrière de couleur rigide, c'est de s'assurer que la justice rendue par les tribunaux soit conforme à la politique du pays, même si cette politique est en contradiction avec les normes de justice acceptées par les magistratures du monde civilisé. Monsieur le Président, je hais les discriminations raciales avec la plus grande fermeté, ainsi que toutes leurs manifestations. Je les ai combattues toute ma vie. Je les combats en ce moment et je les combattrai jusqu'à la fin de mes jours. Je déteste tout ce qui m'entoure ici. Cela me fait sentir que je suis un homme noir dans un tribunal d'hommes blancs. Cela ne devrait pas être.